Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage, Didier. Bonjour Didier.
Bonjour Corinne, bonjour tout le monde.
Didier, c'est notre 42e épisode
oui,
de cette saison.
C'est beau quand même.
42e épisode d'Asialogie.
Moi, ça m'impressionne.
Oui, et le dernier de cette saison.
Voilà.
Avant de vous retrouver à la rentrée, chers auditrices et auditeurs.
Pour de nouvelles aventures, pour une troisième saison.
Troisième saison.
Ouais, c'est chouette.
Et on sera bien sûr rediffusé cet été, on en parle plus tard.
Voilà.
Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est obligé, ben, on va parler vacances.
Eh oui, forcément.
Voilà, et toi Didier, tu vas nous donner quelques idées de cuisine d'été dans cette émission très spéciale.
Voilà,
spéciale
on est vacances. En vacances et fraîcheur, c'est parfait.
Oui,
pour l'été.
On a besoin de fraîcheur, ça c'est sûr. Un petit peu.
D'accord. Alors, depuis quand, je voudrais savoir, moi, on parle de vacances dans le monde? Parce que là, on va parler vacances en Asie.
Oui, bien
mais
sûr.
Mais on va faire un petit préambule avant pour savoir un petit peu plus sur les vacances en général. D'où est venue cette idée, cette belle idée quand même, je dirais.
Oui, c'est une belle idée. Bon, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, mais je vais quand même vous donner quelques généralités.
D'accord.
Alors, l'idée de vacances comme temps de repos ou de loisirs existe depuis l'Antiquité, mais la notion moderne de vacances comme temps libre payé et encadré par des lois est extrêmement récente.
J'imaginais bien.
Voilà. Alors, en Égypte, en Grèce et dans la Rome antique, les élites prenaient déjà des périodes de repos en été pour aller à la campagne ou à la montagne. Mais c'était un privilège pour les aristocrates,
les nobles, il fallait avoir des moyens.
La haute caste, tout à fait. Et ce n'était pas du tout une pratique collective.
Oui.
Alors cela n'existait bien sûr pas du tout pour le peuple, sauf un petit peu plus tard quand même, au Moyen-Âge.
Tiens.
Lors des fêtes religieuses catholiques, je le précise.
Eh oui.
Alors les paysans se reposaient aussi un peu pendant l'hiver, hein, pendant les périodes où il n'y avait rien à récolter, qu'on laissait les sols en jachère. Voilà. Donc on se reposait un peu pendant l'hiver.
D'accord.
Et en Occident, c'est aussi au 19e siècle, dans les sociétés industrielles, qu'on va commencer à parler de temps de repos organisé,
d'accord,
mais toujours réservé aux classes aisées dans un premier temps.
Eh oui.
Le mot vacances au sens moderne va apparaître au début du XXe siècle.
Mm-hmm.
Alors pour rappel, en France, hein, c'est en 1936 que le Front populaire a fait instituer 15 jours de congés payés. C'était une vraie révolution.
Ah, clairement.
Alors c'est seulement après la Seconde Guerre mondiale que les vacances vont devenir une norme sociale dans les pays occidentaux, avec l'émergence du tourisme de masse dans les années 50-60. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, les vacances sont reconnues comme un droit inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Ah oui, je ne savais pas. Très bien.
Voilà. Alors, comme ça.
C'est parfait. Alors,
c'est
bon,
bien.
Là, on était au global.
Oui, au
global.
Alors,
la notion de vacances
global.
Maintenant, on va se rapprocher de notre cœur de métier.
Oui.
Des pays asiatiques, elle doit être un peu différente. Comment ça se passe là-bas?
Bah oui, Didier, en Asie, la notion de vacances est influencée, bah, comme pour nous, hein, par l'histoire et les valeurs qui sont propres à l'Asie.
Oui.
Et comme en Occident, ça, il n'y a pas eu tant de différence. Et jusqu'au 19e siècle, aucune vacance, au sens moderne du terme, mais des jours non travaillés pour les fêtes religieuses
aussi,
ou traditionnelles, tout à fait,
d'accord,
et liées au rythme des saisons. Alors au début du XXe siècle, pendant les périodes coloniales, seules les élites avaient le droit de se reposer. La notion de vacances commençait à émerger, mais elle ne concernait bien sûr que les élites.
D'accord.
Et dans la majorité des pays asiatiques, les vacances vont devenir légales seulement après la Seconde Guerre mondiale.
Ok.
Mais elles seront plutôt courtes.
D'accord.
Et oui, ne pas oublier qu'en Asie, le travail est une valeur très forte et que se reposer est assez mal vu, j'insiste. Alors commençons par la Chine, Didier.
Oui.
Comme en Europe, avant l'industrialisation, les Chinois organisaient leur vie selon les fêtes traditionnelles, les rites confucéens aussi, et selon les fêtes religieuses, tout cela en fonction du calendrier lunaire.
Okay.
C'était alors l'occasion de repos et de déplacement vers les villages d'origine pour se retrouver en famille.
Mmh.
Et après la révolution de 49, avec Mao, il y a eu la glorification du travail et les vacances vues comme un luxe bourgeois.
Forcément, bien sûr.
Et oui, on aurait pu s'attendre peut-être à autre chose. Mais non, les vacances étaient un luxe bourgeois pour Mao. Il y avait donc peu de congés, sauf le 1er mai, le jour de la fête du travail,
et le
1er octobre, le jour de la fête nationale. Donc, pratiquement pas de congé avec Mao. Okay. C'est seulement avec le réformiste, hein, dans les années 80, Deng Xiaoping, que l'État a introduit des droits au repos pour les travailleurs avec l'instauration progressive de jours fériés légaux en plus des fêtes traditionnelles.
D'accord.
Voilà, j'éclaircis un peu.
Oui.
Hein.
Bon, alors, du coup, on fait les comptes là. Combien de jours a-t-on le droit par an alors?
Donc en Chine, je dirais en gros 2 semaines,
oui,
réparties en fonction des fêtes traditionnelles du calendrier officiel. 3 jours pour le nouvel an, il y avait plus hein, du temps de Deng Xiaoping, mais maintenant c'est redescendu à 3 jours pour le nouvel an. 3 jours pour la fête des morts, pour la fête du travail, la fête des bateaux dragons, la fête de la mi-automne et la fête nationale. En gros.
Oui.
Et de ce fait, les Chinois ne choisissent pas facilement leur date de vacances. C'est imposé plutôt.
Par ce calendrier, d'accord.
Voilà. Et le nombre de jours accordés dépend aussi de l'ancienneté. Et ces congés sont rarement pris, rarement tous pris, surtout dans le secteur privé, parce que maintenant il y a du secteur privé en Chine. Hein. Alors à noter qu'il existe maintenant un système de récupération, alors je ne sais pas si on peut dire récupération, dans certains cas on peut travailler les week-ends, c'est-à-dire travailler en plus pour ainsi avoir des jours de vacances, entre guillemets, c'est des jours de repos récupérés, pour partir, surtout pour le nouvel an.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on va travailler 2 semaines de suite pour avoir plus de jours de congé.
Et si on part loin ?
C'est pour partir loin, justement. Oui. Et puis, c'est le, vous vous rappelez, hein, le Nouvel An, c'est le fameux Chunyun, la migration de millions de Chinois. Et c'est la preuve de l'attachement à la famille et au respect des obligations sociales et obligations communautaires. Hein. Prendre des vacances individuelles en Chine pour seulement du loisir est encore mal vu, à la fois dans le monde du travail et dans la société en général. Mais ça évolue. Surtout chez les jeunes urbains qui vont privilégier davantage le tourisme.
Et oui, et alors justement, tu parles de tourisme. Et ils partent en vacances où les Chinois quand ils ne vont pas en famille ?
Alors, le tourisme intérieur est largement dominant. Ça se comprend, c'est grand la Chine. Hein.
Certes.
Et il y a tellement de paysages différents et de cultures différentes que...
Il y a moyen de se dépayser à l'intérieur de la Chine.
Exactement. Alors, les sites historiques sont très visités, les régions montagneuses de tout le pays, et aussi, on en avait parlé, les nouvelles destinations touristiques des Chinois, c'est le Tibet, le Xinjiang. Le Xinjiang, je rappelle, c'est le pays ouïghour, et qui sont maintenant désenclavés hein, avec les TGV.
D'accord.
Et ça attire beaucoup.
Ça m'étonne un peu, mais je suis...
Voilà, peu de tourisme balnéaire, un petit peu quand même, à l'île d'Hainan, hein, qui n'est pas très loin de Hong Kong, qui est sous les tropiques, l'île d'Hainan.
D'accord, oui, je comprends l'intérêt.
Ils ne sont pas très plages, hein, mais ils n'ont pas beaucoup de plages non plus, les Chinois.
Et le soleil ne les attire pas tellement non plus. Hein.
Non, on va en reparler.
Voilà, c'est ça.
Et les classes moyennes voyagent plus loin, hein, en Asie du Sud-Est, hein, Thaïlande, Japon, Corée, et seuls les plus riches voyagent pour d'autres continents, notamment en Europe. Et puis, pour partir un petit peu, chers auditeurs, vous faire voyager, vous faire voler, je vous propose une pause musicale. C'est la chanson du film Kiki la petite sorcière, un Ghibli d'Hayao Miyazaki.
Écoutons alors. Voilà, vous êtes toujours sur Asialogie, 107.3, avec Radio Alpa, bien sûr. Alors, donc, on va retourner en vacances, enfin, nous, on y est bientôt. Et en Corée du Sud, du coup, et au Japon, maintenant, puisqu'on a parlé de la Chine,
oui.
C'est vraiment différent de la conception des vacances chinoises, dis-moi ?
Non, il y a des grosses similitudes.
Oui.
Avant le XXe siècle, en Corée et au Japon, bah, la vie, comme en Chine, rythmée par les saisons, les travaux agricoles, les fêtes rituelles et religieuses, selon le calendrier lunaire.
Oui.
Ça ne change pas.
D'accord.
Ces moments servaient, tout pareil, à renforcer les liens familiaux. Mais dans une société, je le précise, encore plus patriarcale que la Chine,
d'accord,
marquée par la piété filiale, valeur très significative en Corée et au Japon, d'ailleurs.
Okay. D'accord.
Alors, en Corée, après les guerres et au début de l'essor industriel et pendant les dictatures, le pays va adopter une culture du travail intense sur le modèle japonais, avec très peu ou pas de vacances, le travail étant vu comme le pilier du développement national.
D'accord.
Alors, c'était la culture du présentéisme et du sacrifice personnel.
Ouais, j'imagine
oui,
bien.
Oui. Et c'est depuis l'arrivée de la démocratie en 1987, je rappelle que c'est récent, qu'il y a eu l'instauration de jours fériés légaux.
D'accord.
Et une reconnaissance des congés payés dans le code du travail coréen. Mais il reste néanmoins peu pris, ces congés, en pratique, par peur du jugement social.
Encore
toujours.
Encore aujourd'hui ?
Oui, oui, oui,
d'accord,
encore aujourd'hui.
Alors du coup, on refait le point, on a fait le point du nombre. En Chine, du coup, ça fait quel... Enfin, même s'ils ne sont pas tous pris, combien de jours ils ont le droit, en fait ?
Bah, ils ont aussi un calendrier officiel qui impose les périodes de congés. Donc, ils disposent de 15 jours minimum de congés, comme en Chine, avec un jour de plus tous les deux ans de service, jusqu'à 25 jours en fin de carrière.
Ah, ouais.
Mais dans les faits, les salariés n'utilisent que 8 à 10 jours par an en moyenne.
Ah ouais, la vache. Pardon.
Et ils ne sont pas forcément payés. Hein. C'est gratos pour l'entreprise. Il faut retenir que la culture d'entreprise incite à rester productif même en vacances.
Bah,
il faut rester disponible et répondre à ses emails.
Bah, bien sûr.
Voilà, et au téléphone, bien évidemment.
Bah, bien sûr.
Alors, les vacances sont encore perçues comme un luxe égoïste par les générations plus anciennes. Et les jeunes, par contre, bah, revendiquent, comme les jeunes chinois, davantage le droit au repos.
Bien sûr, les choses
et le
évoluent
tourisme,
quand même.
Voilà, les choses évoluent petit à petit.
Mm-hmm.
Alors, le tourisme intérieur est priorisé, comme en Chine.
Oui.
Alors, leur destination de prédilection, c'est l'île de Jeju. Magnifique, un jour on en parlera. Il y a Busan aussi, pour les plages, et les montagnes pour randonnée. Ils adorent la randonnée, les Coréens. Et ce sont les plus riches qui vont à l'étranger, et préférentiellement en Asie du Sud-Est, Thaïlande, Japon, aux États-Unis et bien sûr en Europe.
D'accord. Très bien. Bon, alors, on a fait le tour, on finit par le Japon, s'il te plaît.
Oui, alors comme en Chine et en Corée, bah, le travail, les obligations sociales, la famille, etc.
Oui, bien sûr.
Donc c'est à la fin du 19e siècle, à partir de l'ère Meiji, et lors de l'industrialisation, que le salariat et les premières formes de congés ont été introduits.
D'accord.
Mais les congés légalement accordés sont socialement découragés. Et tant et si bien que dans les années 70, il y a un concept qui est né, c'est le concept du karoshi.
Ouais.
Et c'est devenu une maladie professionnelle. Hein. Le karoshi étant la mort. On en parlera un jour, Didier, de cet concept du karoshi.
Ouais.
C'est la mort par excès de stress et de travail.
Oh mon Dieu.
Voilà. Alors aujourd'hui, les Japonais, ça s'est quand même un peu arrangé. Hein, depuis les années 70, ils ont droit à 10 jours la première année de travail quand même.
D'accord.
Et jusqu'à 20 jours après 6 ans d'ancienneté.
Ah, ça
mais
monte
seulement,
vite.
Oui, mais seulement 50% des salariés en moyenne en profitent, toujours par crainte du jugement, dans une culture qui valorise aussi le sacrifice.
Ouais,
enfin,
bien sûr,
le sacrifice.
Bien sûr.
Alors toutefois, aujourd'hui, l'État japonais incite activement les salariés à prendre leur congé et l'État favorise aussi le télétravail. Bon, c'est du travail, mais on est un peu plus à la maison.
Oui, certes.
Voilà. Alors, quant à leurs vacances préférées, c'est le tourisme intérieur avec la visite des sites historiques comme Kyoto, le mont Fuji, les plages d'Okinawa.
D'accord.
Et bien sûr, la montagne en été comme en hiver. On parlera des sports d'hiver en Asie,
ouais,
c'est très fort.
Hein.
Et les plus riches vont aussi à l'étranger, surtout en Europe.
D'accord.
Et ils voyagent en groupe le plus souvent, comme les Chinois.
D'accord.
Voilà.
Alors là, on a parlé des vacances, du nombre de vacances, s'ils les prennent ou pas. Moi, je voudrais en savoir plus maintenant si, en vacances, ils sont différents de nous.
Oui, Didier, je dirais plutôt oui. Ils ont d'autres habitudes et parfois une vision très... Enfin, opposée.
Oui.
Par exemple, pour ce qui concerne le bronzage.
Ah, ça.
Ça, on le sait un peu.
Oui.
Hein, en Chine, en Corée et au Japon, la peau claire est traditionnellement valorisée. S'il y a du soleil, bah, on porte des vêtements couvrants, des manches longues, des vêtements anti-UV, hein, des manches longues, des gants, des chapeaux à large bord et des parapluies. Il faut être il faut éviter d'être bronzé à tout prix.
Exactement, c'est vraiment l'inverse de nous.
C'est complètement l'inverse. Et à la plage, bah, les maillots de bain sont donc plus couverts que dans les cultures occidentales. Et pour certains, le maillot de bain intégral ou la combinaison anti-UV intégrale, c'est un bon choix. Mais bon, on commence à voir des bikinis quand même, hein. Faut aussi le savoir.
D'accord.
Mais bref, la plupart du temps, ils sont habillés à la plage. Hein.
Oui, il n'y a pas la marque du maillot.
Il n'y a pas la marque du maillot. Alors, un autre exemple, la baignade, elle est souvent limitée à la simple immersion et les jeux de plage sont beaucoup plus rares que chez nous, en Occident. Ils préfèrent se promener sur la plage, pique-niquer et se photographier.
D'accord.
Voilà. Il faut savoir aussi que les baignades sont extrêmement bien surveillées en Asie et que les plages n'ouvrent par exemple à Busan.
Ouais.
Les plages ne sont ouvertes qu'en juillet, août. On n'a pas le droit de se baigner avant ni de se baigner après.
Ah, pas du tout.
On risque une amende parce que les plages sont... Ça rigole pas.
Ouais, je sais bien, mais nous, elles sont pas toutes surveillées
hors
saison et tu te baignes pour autant. Quoi.
Ben voilà, mais non, ils n'ont pas du tout cette culture de la baignade.
Okay.
Et il faut noter que, donc, comme je vous le disais tout de suite, les Coréens et les familles asiatiques accordent une très grande importance à la prévention des risques dans les activités aquatiques avec une vraie peur des noyades.
D'accord.
Alors, même si la natation est enseignée dans certaines écoles, beaucoup d'adultes n'ont jamais appris à nager ou n'ont pas confiance. Il y a des champions de natation, hein, ceci dit.
Oui.
Mais la
pas,
plupart des gens ne savent pas nager. C'est pourquoi ils nagent très mal.
Ouais.
Et c'est pourquoi pour se rassurer, ils se baignent avec des grosses bouées ou des gilets de flottaison.
Ah ouais.
Ah ben moi je vous recommande d'aller voir les vidéos sur YouTube des baignades sur les plages de Busan en Corée du Sud. Hein, ça vaut le coup.
Ouais, ça doit.
Voilà. Et bah, flotter en groupe, prendre des photos, discuter sans effort, c'est une manière relaxe de profiter de l'eau.
Et pourquoi
très
pas.
Différent de nous. Bah oui, pourquoi pas. Alors, on fréquente aussi la plage pour son côté esthétique. Autre différence avec l'Occident. Aussi, au Japon et en Corée, ben, on ramasse scrupuleusement ses déchets.
Ce que j'aimerais qu'on fasse ça aussi.
C'est ça. Et pour ce qui concerne la montagne, ben, les Chinois, les Coréens, comme les Japonais, la perçoivent comme un lieu de ressourcement spirituel, voire sacré. Il ne faut pas oublier les traditions bouddhistes, taoïstes et shintoïstes qui valorisent la nature et la méditation.
Bien sûr.
Et donc, bah, la montagne, en plus de la quête de bien-être, c'est un moyen de se purifier, de faire de l'exercice.
D'accord.
Bon, bah, moi, je vais vous propose justement pour faire de l'exercice une petite pause musicale avec Blackpink et ses Ice Cream et c'est avec Selena Gomez.
Et là, on est dans le frais.
C'était Blackpink avec Ice Cream, Blackpink et Selena Gomez dans Asialogie sur Radio Alpa 107.3. Didier, que mange-t-on de particulier en Chine, en Corée, au Japon pendant l'été? Tu vas nous donner quelques recettes, je suppose.
Ah ben, je vais essayer de vous en dire un peu plus, bien sûr.
Oui.
Bon, alors, Il faut déjà savoir que les trois pays ont des points communs. Bon, sans doute, hein, le plus significatif, c'est de manger des nouilles froides.
Oui.
En Chine, on mange des nouilles froides à base de farine de blé ou de riz et on les sert avec de la sauce soja, du vinaigre, de l'ail, du concombre râpé, de la coriandre. C'est rafraîchissant et léger et facile à faire.
Oui, c'est vrai.
Alors, en Corée, c'est le naengmyeon, des nouilles froides dans un bouillon glacé légèrement acide, garni de concombre, d'œufs durs, de viande froide, parfois avec de la poire. C'est un plat très populaire.
Ah oui, il paraît qu'ils mettent même des glaçons dans cette soupe.
Alors, le Japon a aussi ses nouilles froides. Hein. Il y a les hiyashi shuka avec du concombre, du jambon, de l'œuf, de la tomate, avec une sauce soja ou vinaigre sucré. Une recette simplissime, en fait, des nouilles soba aussi sont très appréciées. Ce sont des nouilles de sarrasin, ça on connaît peut-être un petit peu, que l'on sert avec de la sauce soja spéciale appelée tsoyu. Un mélange qui ressemble au miso, mais très légèrement sucré.
Il y a bientôt un nouveau restaurant de ramen.
J'ai entendu parler de ça.
Qui ouvre.
Je n'ai pas encore testé, mais l'été sera là pour ça.
Oui, peut-être qu'ils font, font les nouilles
qui
soba.
Pour la fraîcheur, c'est pas mal.
Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des spécialités différentes, Didier ?
Oui. Alors, par exemple, et ça dépend des régions, hein, les Chinois adorent les plats avec du citron et des herbes fraîches en été. Ils mangent aussi des raviolis refroidis avec une vinaigrette. Mais les recettes d'été des trois pays ont des points communs. Ce qui varie, ce sont surtout en fait, les assaisonnements.
Oui.
Les soupes froides à la pastèque ou au melon se mangent partout, comme les salades de tofu avec de l'huile de sésame et de la sauce soja. Partout aussi et presque à tous les repas, on mange des concombres nature ou en kimchi, en salade. À noter que le plus souvent, on ne fait pas dégorger le concombre pour en fait garder toute l'eau et mieux rafraîchir. Alors, les salades de légumes frais avec des tomates, oignons, champignons, germes de soja, carottes, choux sont aussi sur toutes les tables. De même que les fruits de mer, à noter tout de même une particularité en Corée du Sud. Alors, le sanggye tang, c'est une soupe de poulet au gingembre servie chaude avec du riz, mais consommée en été pour donner de l'énergie.
Ah oui, bah on peut imaginer ça. C'est vrai que le couscous, par exemple, c'est quand même un plat chaud et on le mange en été aussi.
Oui, j'avais pas vu ça comme ça, mais je te l'accorde.
Et les desserts, j'imagine qu'en été, il y a du choix, Didier.
Alors oui, il y a des bons desserts. Je vous fais un petit récapitulatif. Tout d'abord, alors les fruits, bien sûr, faciles à trouver et pas chers en Chine, un peu plus chers en Corée et hors de prix au Japon.
Ah oui, ça, on avait vu ça.
Alors, c'est la pastèque, la reine des fruits d'été. Un peu comme chez nous, hein, de même que les melons et les pêches. Deux autres desserts emblématiques, faciles à faire et délicieux, les perles de tapioca au lait de coco et le riz gluant à la mangue.
Ah oui, ça c'est bon.
Ça peut être sympa ça.
Ah oui, oui. Aussi, facile à faire.
Ça a aussi beaucoup de succès, ce sont les gelées de fruits et bien sûr toutes sortes de glaces, dont les fameux mochi glacés.
Ah oui.
Mais je sens que je te fais envie. Mais les plus appréciés sont assurément les bingsu coréens et son cousin japonais le kakigori. Ce sont tous les deux des desserts à base de glace pilée, de lait concentré, de haricots rouges sucrés et de fruits, avec souvent des morceaux de mochi et d'autres ingrédients comme les fruits secs.
Est-ce que tu peux nous donner une recette de bingsu? Parce que c'est vrai que c'est un peu à la mode, on en parle beaucoup dans les dramas, tout ça, du bingsu.
Alors j'ai une recette très facile à vous proposer. Alors vous courez vite chercher un crayon pour noter les ingrédients prévus. Alors c'est pour deux personnes. Hein.
Okay.
Deux tasses de glace pilée.
Bon, ça c'est facile. Hein.
Une tasse de pâte de haricots rouges sucrés. Alors qu'on peut trouver dans les épiceries asiatiques ou mieux encore, on peut aussi la faire soi-même. Alors on a une demi-tasse de lait concentré sucré. Une demi-tasse de fruits frais au choix, alors fraises, mangues, kiwis, melons, enfin voilà,
oui,
selon le goût de chacun. 2-3 cuillères à soupe de mochi coupées en petits morceaux, alors c'est facultatif mais c'est plaisant. 2 cuillères à soupe de céréales croustillantes du type cornflakes et quelques noix ou amandes effilées ou des éclats noisettes.
Faut un grand bol, Didier, pour ça. Faut quand même un grand bol, parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients. Il y en a même pour deux personnes, donc il faut deux grands bols.
Voilà, c'est ça. C'est mieux. Ah bon, comment on prépare tout ça? Alors, on prépare la glace pilée. Alors, si on n'a pas de glace pilée, ben, on utilise un mixeur avec des glaçons, un peu d'eau, enfin, mettre des glaçons dans le torchon et les écraser. Enfin, vous vous débrouillez, mais il nous faut de la glace pilée, quel que soit le dispositif. Oui. Alors, on dispose la glace au fond d'un bol plutôt large, comme tu disais, en formant une petite montagne au centre.
D'accord.
Alors, on ajoute la pâte de haricots rouges sur la glace. Après, on verse le lait concentré sur la pâte de haricots rouges. On ajoute donc les morceaux de fruits qu'on a choisis dessus. On garnit avec les petits morceaux de mochi, puis les céréales et les fruits secs. Et on peut remplacer la pâte de haricots rouges par des sirops de fruits au choix, hein, ou par du lait de coco, ou du sirop de canne, ou du miel.
Faut absolument qu'on essaye. Alors, comment on fait la pâte de haricots rouges? En quelques mots, Didier, si tu peux nous donner la recette.
C'est parce assez que... facile, je vais aller assez vite. Il faut 200 g de haricots secs, comme on les connaît, hein, rouges bien sûr, 100 g de sucre, une pincée de sel et de l'eau pour la cuisson. Bah, alors la préparation, on fait tremper les haricots, hein, comme on a l'habitude, pour les réhydrater au moins 4 heures, idéalement c'est toute la nuit. Puis on met ensuite au moins 3 fois leur volume d'eau. Hein. On les laisse mijoter une heure jusqu'à ce qu'ils soient très tendres, puis on les égoutte, les haricots, en conservant un peu de liquide de cuisson, puis on en fait une purée lisse, on mélange avec du sucre et la petite pincée de sel, on verse dans une casserole à nouveau pour cuire pendant une bonne dizaine de minutes à feu doux, hein, en remuant constamment pour éviter que ça colle. Puis on laisse bien sûr refroidir avant d'utiliser. Cette pâte se conserve en gros 5 jours au réfrigérateur dans un récipient hermétique, mais avec la glace, ça ne tiendra pas 5 jours.
Mais oui, c'est sûr. Mais oui, c'est facile à faire.
C'est facile à faire.
Bon, Didier, merci. Oui. Ça nous fait vraiment très envie. Bon, c'est fini.
C'est ça.
La saison se termine.
Et voilà, Asiagologie, c'est fini, mais c'est aussi fini pour cette année.
Voilà, mais tout l'été, nous serons rediffusés,
voilà, c'est fini,
voire
c'est
une,
pas fini.
Deux fois par jour.
C'est ça.
Hein, 42 émissions.
Vous avez tout l'été pour tout rattraper.
Exactement. Donc, on vous souhaite à tous, chers auditrices, auditeurs, de très bonnes vacances.
Et c'est
on,
ça.
On se retrouve à la rentrée avec grand plaisir, toujours sur Radio Alpa 107.3,
bien sûr.
Sur radioalpa.com et bien sûr, vous nous écoutez aussi en podcast.
À
mois de septembre.
À l'année prochaine. Enfin, l'année prochaine.
À la
saison prochaine.
À la rentrée.
Voilà, à la rentrée, avec grand plaisir. Merci à vous.
Salut à tous.
Pour cette belle année. À bientôt.